Katia Sénard.
Exploration des moteurs, des engrenages de la littérature d'aujourd'hui. Écoutons le concert des bielles de la fiction, les pistons du récit. Tour à tour, autrices, traducteurs, mais aussi dessinatrices ou scénaristes de bandes dessinées nous font visiter leur salle des machines, nous ouvrent le capot de leurs livres et nous expliquent comment elles et ils plongent les mains dans le cambouis. De quelle façon on met à la voile, ou même, de temps en temps, à la rame. Comme disait Blaise Cendrars à bord du paquebot Normandie, je les verrai à l'œuvre dans les fonds, les soutiers, les huileurs, les graisseurs, les mécanos, tous les gars de la machine. Peut-on retraduire les textes à l'infini ? C'est la question que nous avions envie de poser au traducteur du russe André Markovitch, qui retraduit, avec la poétesse Françoise Morvan, le chef-d'œuvre de Mikhaïl Bulgakov, Le Maître et Marguerite, aux éditions Inculte. Puis notre chapitre « Cailloux dans les poches » sera consacré à « Extension du domaine de la lutte » de Michel Houellebecq, aux éditions Écoutez lire, et plus précisément à la lecture et à l'écriture. Ensuite, nous nous entretiendrons depuis Madrid avec Antonio Muñoz Molina, dont les déambulations, un promeneur solitaire dans la foule, paraissent aux éditions du Seuil. Et enfin, last mais pas least, c'est Dany Héricourt, autrice de La Cuillère, chez Liana Lévy, qui clora cette émission avec son message à la salle des machines.
Да, человек смертен. С этим трудно спорить. Но дело в том, что...
Да, человек смертен. Но это было бы еще полбеды. Плохо то, что иногда он внезапно смертен. Вот в чем фокус. И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер.
Но это преувеличение. Сегодняшний вечер мне более-менее ясен. Ну, если, конечно... Набронный мне на голову свалится кирпич.
Кирпич никогда ни с того ни с сего на голову не свалится. В частности, вам он ни в коем случае не угрожает, уверяю вас. Вы умрете другой смертью.
Может, скажете, какой?
Охотно. Раз, два. Меркурий во втором доме. Луна ушла. Вечер 6, 7 несчастья. Вам отрежут голову.
Bienvenue Françoise Morvan et bienvenue André Markovitch. Vous reconnaissez ces personnages qui s'entretiennent sur un banc près des étangs du patriarche à Moscou dans les années 1920?
Plutôt oui, puisque c'est la première conversation avec Volande devant l'étang, où Volande explique à Berlioz qu'une brique ne le menace pas, qu'aucune brique ne tombe par hasard sur la tête de qui que ce soit, mais que lui, Berlioz, sera décapité.
Et effectivement, il est décapité.
C'est indiscutable.
Et qui est ce Volande, donc ce personnage si mystérieux, avec cette voix si puissante dans cette adaptation de Vladimir Bortko de 2005, la voix de l'acteur Oleg Basilashvili?
Ah ben, c'est le grand héros du roman.
Mais est-ce que c'est le diable ou est-ce que c'est pas le diable?
On ne sait pas, mais...
Ben, c'est-à-dire, c'est la force du mal qui fait le bien.
La force du mal qui fait le bien, voilà une excellente entrée en matière pour Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Bulgakov que vous retraduisez du russe André Markovitch et Françoise Morvan. Et André Markovitch, vous êtes traducteur et écrivain et nous vous devons beaucoup. Nous vous devons d'avoir relu tout Dostoïevski, d'avoir découvert Pushkin, entendu Lermontov et Tchekhov ou encore pleuré Mandelstam. La liste de vos plus de 100 traductions est une ode à la littérature russe, en majorité aux grands auteurs du 19e siècle, mais aussi à des écrivains moins connus, comme ceux que vous nous faites découvrir dans l'extraordinaire anthologie Le Soleil d'Alexandre, par exemple. Vous êtes vous-même auteur, Vous avez publié, entre autres, un très bel ensemble de récits, de réflexions autobiographiques intitulées « Partage » aux éditions Inculte, il y a quelques années, dans lesquelles vous nous ouvriez aussi votre atelier de traducteur. Vous êtes aussi vous-même poète. Vous avez publié le récit en vers « L'appartement », magnifique histoire de cet appartement dont vous avez hérité à Saint-Pétersbourg. Et vous présentez aujourd'hui, toujours aux éditions Inculte, cette retraduction d'un classique, peut-être le classique du roman russe du XXe siècle, avec Vie et Destin ou le docteur Jivago, Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Bulgakov. Nous l'évoquions brièvement précédemment, ce roman, cette reprise du mythe de Faust, a obtenu, après bien des péripéties, un succès mondial. André Markovitch, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez lu Le Maître et Marguerite et de ce que vous aviez éprouvé à l'époque?
Ah ben, je me souviens parfaitement parce que c'est le seul livre russe que mon père ait lu en russe. J'avais pas 10 ans quand j'en ai entendu parler. Il a lu la première édition qui est parue, d'abord l'édition soviétique, censurée, et puis après l'édition européenne où les passages censurés étaient en italique. Et c'est le livre qui a absolument bouleversé mon père et dont il n'arrêtait pas de parler. Et en fait, j'ai toujours voulu traduire ça. Il se trouve qu'il n'y avait pas les droits pour le publier. Les droits étaient réservés. Et puis à un certain moment, j'ai appris que les droits étaient libres et Inculte m'a proposé de le traduire. Et la première année, je l'ai traduit seul et je me suis cassé. C'est-à-dire, ça n'a pas marché du tout. C'était une catastrophe. Et je n'arrivais pas à le faire. Et c'est là qu'avec Françoise, on s'est dit qu'il fallait que Françoise soit là.
Mais André Markovitch, qu'est-ce qui vous bloquait finalement? C'était dans la langue, dans le français, ou dans le sens que vous pouviez donner à ce texte?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'étais pas prêt, en fait. Je voulais le faire, mais j'étais pas prêt. Et du coup, on a relu phrase à phrase, des dizaines de fois, et Françoise vous avait proposé toutes les variantes. Et puis après, on s'est dit, bon, c'est comme ça, dans ce cas-là, on fait tout ensemble, comme on a fait pour Tchekhov, on signe à deux. Et parce que finalement, il y avait une nécessité de rendre compte. Il y a une chose, c'est que Bulgakov est un médecin, comme Tchekhov. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une espèce de précision, de scalpel du vocabulaire, que très souvent j'ai du mal à avoir en français. Mais d'autre part, que cette précision de scalpel, elle ne se justifie que par une vision organique du texte. C'est-à-dire que tout correspond à tout, tout est vivant, et il faut pas oublier le moindre détail, parce que le moindre détail est en rapport avec un autre, 300 pages plus loin, 400 pages plus loin, et que donc, en quelque sorte, on était deux, et on s'aidait à voir les répétitions, les motifs, les jeux stylistiques. Et puis après, Françoise, elle a fait une autre chose. Un des personnages principaux s'appelle Bezdomny. Bezdomny. Bon, c'est traduit Bezdomny, bon. Mais Bezdomny veut dire sans maison, sans logis.
Oui, on reviendra sur la question des noms, qui est extrêmement intéressante, qui, à mon avis, participe du fait que cette traduction soit vraiment hilarante et très, très drôle, en tout cas, très agréable à lire. Le Maître et Marguerite, donc c'est un roman parodique, un roman du Moscou des années 20-30. C'est aussi un roman très surprenant, où il y a des chapitres où on lit aussi un roman dans le roman, hein, sur le Ponce Pilate et Jérusalem antique au moment de la mort de Jésus sur la croix. C'est un roman qui a eu un destin extrêmement surprenant. Quand Bulgakov commence ce récit, a priori, il est certain que ce sera jamais publié de son vivant.
Oui. À partir de 1928, il commence à écrire ça. Et il écrit ça en parallèle avec son travail au théâtre. C'est le même auteur, c'est un auteur de théâtre. Tout est fait pour le théâtre. À partir de 1934, il ne fait quasiment que ça. À partir de 1934, il y a une grande... Avant, il appelait ça le roman sur le diable. Et après, ça change. En particulier parce que, en 1934, apparaît le personnage du maître. Et peut-être il faut dire qu'il n'y a pas un roman, mais trois romans dans un roman. Il y a le Moscou de 1920-1930, dans lequel le diable revient. Il y a le roman écrit par un écrivain anonyme qu'on appelle le maître sur, non pas Jésus, mais Yeshua, qui est non pas à Jérusalem, mais à Yerushalayim. Et les différences sont importantes. Et le troisième, il y a un roman d'amour entre Marguerite, la bien-aimée, et cet écrivain. C'est trois romans en un.
Oui, d'ailleurs, c'est des romans qui sont découpés ainsi en partie, puisque toute la première partie du texte, Françoise Morvan, par exemple, le maître n'y apparaît pas encore. On est vraiment dans une description satirique extrêmement drôle et enlevée, d'ailleurs, de cette vie littéraire moscovite au début du stalinisme.
Bah, ce qui rend le roman intéressant et la traduction particulièrement difficile, c'est que c'est carnavalesque. Il y a toute une partie où ce qui faisait que le père d'André était tellement passionné par ça et que tout le monde le lisait en riant, c'est qu'il y a une satire de l'URSS. Ne serait-ce qu'au début, quand il demande à avoir un peu d'eau pétillante, il n'y en a pas. Il demande donc alors une bière, il n'y en a pas non plus. Et on va leur servir, alors ce que les autres ont traduit par du jus d'abricot, c'était pas ça. Nous, on a traduit de la gazeuse abricot. Rien que ça, on sait que c'est atroce, donc ils sont malades pour le reste du temps. Et bon, c'est plein de petits détails comme ça. Et en même temps, le tragique s'inscrit sur cette trame-là. En n'oubliant pas que Bulgakov, c'est un auteur de théâtre. C'est écrit pour être joué, en fait. D'abord, c'est écrit pour le tiroir, parce que c'est impubliable. Et comme toutes les pièces de Bulgakov, parce qu'il écrit des chefs-d'œuvre, et Staline les interdit. Et c'est joué, c'est un triomphe, mais on l'interdit. Puis après, on l'autorise, puis après, on l'interdit encore. Donc, c'est écrit pour l'oreille. Voilà, c'est...
D'ailleurs, puisqu'on en parle, est-ce que Staline est dans le livre? Est-ce qu'il y a un personnage? Est-ce qu'on pourrait penser, par exemple, que Ponce Pilate aurait quelque chose de Staline?
Mais il est partout, hein.
Ah oui?
Oui, il est partout et nulle part. Aucun personnage ne représente Staline. Mais peut-être que Tibère, qui n'apparaît pas, mais qui est l'autorité suprême pour Ponce Pilate, c'est une image de Staline. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler même de lui. Bien sûr.
Oui, parce que fascinant aussi, bon, si on parle de cette première partie très théâtrale, justement, c'est qu'on a l'impression de voir défiler ces personnages les uns après les autres. Et tout ça, justement, il est question aussi de théâtre, de magie sur scène, de Volant tel qu'il se présente comme un espèce d'artiste scénique. Et donc, on voit Moscou comme si c'était un grand théâtre.
Comme si c'était un grand théâtre dans lequel tout est faux, et délibérément faux, où tout ment. Les tours de passe-passe du mage sont même pas faits par le mage, mais par ses aides. Les écrivains passent leur temps à se baffrer et à se jalouser pour avoir une datcha au bord de l'eau, etc., etc., etc. Tout est menteur. Et arrive à l'intérieur de ça ce diable qui montre ce que c'est, ce mensonge.
Oui, le diable révèle un peu, hein, voilà. Puisque c'est presque un prophète, un diable qui est extrêmement, finalement, positif. Il châtie tous ces gens un peu les uns après les autres. Et finalement, on l'aime beaucoup, le diable. C'est un peu le personnage le plus sympathique avec le chat.
Ah bah. Qui est pas vraiment sympathique, le chat, mais bon.
Il est pas sympathique pour les gens du livre, mais pour le lecteur, même si on n'est pas passionné par les chats.
Alors, comment traduire Behemoth? C'est Behemoth, c'est évident. Mais Behemoth en russe, pour tout le monde, c'est un hippopotame. On a quand même gardé Behemoth, bien sûr, parce que c'est la référence à la Bible. Mais Behemoth, c'est un hippopo, quoi. C'est hippopotame.
Ah oui, donc c'est un chat hippopotame.
Un chat, il est très gros. Il est très gros. C'est un chat, et c'est un chat qui monte dans les tramways, oui. Et qui est prêt à payer.
Oui, puisqu'il a même une pièce de 10 copecs sur sa moustache.
Absolument. Et la conductrice lui dit, c'est interdit au chat.
Oui, ça montre bien que ce roman est à la fois désopilant et en même temps d'un réalisme très spécial qui fait, à mon avis, son côté vraiment unique. C'est que c'est à la fois un roman très vrai sur ce Moscou avec beaucoup de détails et qui en même temps sont comme un décor de théâtre. Ce qui compte, c'est qu'ils fassent bien entre eux, mais si on regarde point par point, il y a beaucoup de choses qui sont fausses.
Qui sont fausses. Et c'est un Moscou dans lequel personne n'a de maison. Où tout le monde est sous les yeux de tout le monde. Et ça, c'est un des motifs centraux du livre. Personne n'a de vie privée. Et c'est l'opposition fondamentale que Bulgakov, à la fin de sa vie, reprend de Pouchkine. L'opposition dans la culture russe entre la dimension de l'empire, de l'État, et la dimension individuelle, le foyer, la maison. Et dans ce Moscou, c'est le Moscou des appartements communautaires. C'est-à-dire, il y a une famille par pièce, avec une salle de bain et une cuisine. Tout le monde se surveille, tout le monde se dénonce. Personne n'est plus avec soi. Et c'est ce que Voland va dire pendant la représentation au théâtre. Il dit, la question logement a beaucoup transformé nos spectateurs. La question du logement. Et ça, dans tout le roman, ça va se faire. Comment avoir une vie privée dans un monde qui interdit totalement toute vie privée. Et là, le roman carnavalesque prend une dimension tragique, politique, philosophique, historique. Il n'y a aucun moyen d'avoir une vie privée. Le seul moyen, c'est de partir. Partir, ça veut dire mourir.
Oui, et puis aussi la littérature dans le roman, tous ces littérateurs sont un peu des écrivaillons sans grande dimension qui ne cherchent qu'à plaire apparemment, qui sont jaloux les uns des autres. C'est une satire extrêmement mordante, sans doute d'écrivains de son époque.
Ben, bien sûr.
Il faut dire que tout le destin de Bulgakov a basculé sur une lettre à Staline d'un obscur dramaturge.
Ouais, Béla Tsarkovski, que personne ne connaît.
Qui vendait quand même à 1 million d'exemplaires, ses œuvres. Et Staline a répondu, c'était en 29, Staline a répondu à la lettre en dénonçant Bulgakov. Donc à partir de ce moment-là, il l'a écrit à son frère d'ailleurs. « Je suis terminé, je n'ai plus de destin littéraire. » À partir de ce moment-là, il savait qu'il était condamné, mais... Le Maître et Marguerite, c'est sa manière de dire, eh ben quand même, c'est un pied de nez.
Oui, en tout cas, on sentait qu'il avait quelque chose, qu'il était bien content d'en tuer certains un peu au passage.
Mais c'est-à-dire que à partir d'un certain moment, ça prend une dimension autre. C'est-à-dire qu'il est de fait l'union des écrivains. Des écrivains donc, des écrivains, comment vous dire, autorisés. C'était une assemblée non seulement d'hommes nuls, mais d'assassins, simplement d'assassins. Et la véritable littérature russe n'est pas la littérature soviétique. C'est la littérature qui s'est faite en dépit de l'Union soviétique. Pas contre. C'est pas la question du contre, ça n'a aucune importance. C'est en dessous, à côté. Et Anna Akhmatova, Osip Mandelstam, Mikhail Bulgakov et toute une série d'autres n'existait finalement pas publiquement. Dans les années 30, personne ne parlait plus d'Akhmatova, ne parlait plus de... Il y avait Pasternak qui restait là, mais comme une espèce d'icône, et qu'on ne publiait pas. Et donc, c'est simplement le fait que la littérature existe en dehors du monde politique, et que le besoin de s'exprimer, de composer une œuvre, c'est pas un besoin anecdotique, c'est un besoin vital. Soit... Tu ne peux pas ne pas le faire, soit tu ne le fais pas. C'est tout.
Dans ce roman extraordinaire, Le Maître et Marguerite, quand vous commencez à votre traduction, vous rentrez dans ces premières pages, est-ce que, ouvrez-nous un peu votre atelier pour voir, est-ce que vous avez commencé par le début? Comment est-ce qu'on procède dans ces cas-là? Parce que c'est un texte que vous connaissez si bien. Est-ce que vous êtes dit, d'abord, vous avez fait une liste de choses à faire?
Je relis jamais le livre que je commence à traduire. Je fais très attention à l'avoir oublié, enfin, autant que possible. Ça, c'est une base. Ce que tu lis avec les yeux, tu le lis pas avec les doigts. Tu le lis pas quand avec la matière. Et faire attention à la matière, qu'est-ce que ça veut dire traduire? Ça veut dire être ouvert à la surprise. Ne pas savoir. Par exemple, je me souviens que, au début, j'avais été surpris par le fait que, à un certain moment, quand apparaît Voland, c'est écrit « apparaît le premier homme ». Et ça m'avait paru bizarre, le premier homme, первый человек. En russe, il n'y a pas d'article. Est-ce que c'est un premier homme ou est-ce que c'est autre chose? Et ça, c'était des questions qu'on se posait. C'est-à-dire, si c'est un premier homme, c'est anecdotique. Bon, ben voilà, un premier homme passe, puis un deuxième. Et si, en fait, celui qui apparaissait, c'était justement le premier homme, parce que c'est pas un homme. Et des questions comme ça, on se posait.
Et alors, qu'est-ce que ça veut dire retraduire? Est-ce que vous avez lu, évidemment, les traductions précédentes en français, et notamment celle de Françoise Flamand, qui est finalement assez récente, hein, qui date juste de quelques années, et qui est parue maintenant en poche, en folio. Est-ce qu'on s'intéresse à ceux qui ont précédé le travail, qui ont commencé avant vous, hein, cette mise en français du texte?
Bah, ce qui est très important, c'est surtout de ne pas connaître les autres traductions à l'origine. Ah, il faut plonger et s'immerger et voir apparaître les motifs tels que on les ressent soi-même. Alors, en revanche, après, on peut pas faire l'économie de regarder comment les questions ont été posées par d'autres. Dans le cas de la première traduction qui était celle de Claude Ligny, en fait, il était parti d'une édition qui était tronquée à l'origine. Il a pas du tout posé les mêmes questions. Dans le cas de Françoise Flamand, on a vraiment une universitaire qui a consacré des années à ce travail, qui a fait tout un appareil de notes passionnant. Qui, d'ailleurs, si André avait su qu'elle traduisait pour la Pléiade, c'est pas certain qu'il se serait lancé dans l'expérience.
C'est sûr que non.
Il aurait laissé tomber, en fait, je pense. Mais comme il a appris ça au moment où il avait déjà pratiquement terminé la première version, du coup, c'était stupide d'arrêter, et d'autant que là, on est sur un exemple très intéressant de traductrice très honnête qui fait un travail d'élucidation du texte, mais qui ne voit pas du tout le texte sous le même angle. Parce que, par exemple, le fait que ce soit un texte de théâtre, ça ne semble pas importé, en tout cas pas prioritairement. D'autre part, le côté, partinien...
Du carnaval.
Oui, c'est ce mélange de styles, ça, c'est quelque chose qui nous semblait tout à fait prioritaire, qui était d'ailleurs pas simple non plus, parce qu'on savait pas, étant donné la tradition en France de traduction académique, à chaque fois qu'on sait qu'on va traduire les fautes de l'auteur. Par exemple, là, Bulgakov ne fait que répéter les noms. Quand Bulgakov, dans un paragraphe, a casé 6 marguerites, on a tendance à en enlever, comme les autres. Mais à partir du moment où on a décidé que on comprend pas forcément quelle est l'intention stylistique de l'auteur, mais on sait qu'il le fait exprès, c'est pas une faute. Il a besoin, à ce moment-là, de ces répétitions. Donc, nous, on les garde. Et on sait que, évidemment, comme de même de traduire les noms, on sait très bien qu'on se met hors tradition et que tout le monde va nous tomber dessus. Mais il y a quelque chose aussi qui fait que on s'amuse énormément.
Justement, venons-y à cette affaire des noms, si vous le voulez bien, Françoise Morvan et André Markovitch, puisque c'est un peu une des particularités, en tout cas ce qui, pas choque, mais surprend le lecteur qui ouvre votre traduction du Maître et Marguerite, c'est cette présence de la traduction ou de l'adaptation des noms propres. Alors je prends un petit exemple, page 88, où il y en a plusieurs, il y a un littérateur, par exemple, qui s'appelle Krapulnikov. Un autre poète qui s'appelle Fofrerovski. Une dame qui s'appelle Nastassia Tikhupropatova. Et puis un auteur de sketch populaire qui répond au nom de bas de la nuque, un peu comme bas du front.
Hein. Bah oui, c'est ça.
Donc il y en a beaucoup, des vulgaires, des amusants, qui dénotent une certaine qualité morale, par exemple, ou l'absence de moralité prêtée à certains. Et alors vous expliquez à chaque fois dans une note, hein, pourquoi est-ce que vous avez choisi telle interprétation du nom en russe de ces personnages, dont le plus important d'entre eux est ce fameux Bezdomny, celui qui n'a pas de maison, que vous traduisez par le sans-logis.
Sans logis.
En fait, André a traduit le théâtre complet de Gogol, et notamment le mariage. Et dans le mariage, il y a des personnages qui ont comme ça des noms qui veulent dire des choses. C'est une tradition carnavalesque, encore une fois. Il y en a un qu'on a traduit par Plikemplov, un autre c'était...
Omelette.
Oui, enfin bref, ce qui semblait drôle à Gogol, nous aussi, ça nous semblait drôle, donc on a fait ça. Alors tout le monde était extrêmement fâché, parce que, je sais pas, il y en a, ici dans le Maître et Marguerite, il y en a un qui s'appelle Ababkov. Donc, moi, j'ai demandé à André, qu'est-ce qu'on peut trouver de plus... Alors, il m'a cité une phrase de Poutine.
Babki, c'est le fric. Hein. Quand, au tout début de la perestroïka, Poutine a dit « Это время делать бабки ». C'est un temps à faire du fric.
C'était son projet.
C'est tout un vrai projet. Là.
C'est un vrai projet. Et finalement, on peut dire que lui, au moins, il a réussi dans la vie. Et voilà. Eh ben, Ababkov, c'est un écrivain, il s'appelle Ababkov. Il fait du fric, il veut faire du fric. Et c'est la tradition, mais non, c'est pas la tradition simplement de Gogol, c'est la tradition d'Aristophane. C'est la tradition de toute la comédie. Dans la comédie, le nom est signifiant. S'il y a une telle accumulation de noms à certains moments, c'est parce que ça a un effet comique. Si je traduis pas les noms, c'est pas drôle du tout. Et surtout, Bezdomne pose le principe. Il n'a pas de maison, il est sans logis. Et ça pose le motif fondamental pushkinien du dôme de la maison. La dernière phrase de Pouchkine, Bulgakov a écrit une pièce sur Pouchkine en même temps qu'il terminait Le Maître et Marguerite. La dernière phrase de Pouchkine, c'est en français. Il faut que j'arrange ma maison. Et donc, c'est peut-être aussi ça la différence fondamentale entre notre traduction et celle formidable de Françoise Flamand. C'est que cette dimension de Pouchkine, pour nous, elle est radicale. C'est elle qui nous guide. En fait, tout le roman, ces 600 pages ou je ne sais pas combien, 700 pages, c'est l'expansion d'un poème de Pouchkine qui fait 8 vers. Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит, лечатся днями дни и каждый час. Enfin, c'est Partons, amis, partons, que le repos nous vienne. Le jour succède au jour et tous les jours nous prennent un peu de notre cœur. Enfin, ça continue comme ça. Et c'est 8 vers. Tout le roman est une expansion d'un des derniers poèmes de Pouchkine. Et ça, naturellement, Françoise Flamand n'avait pas fait attention à ça, même si elle cite ce poème. Mais pour nous, ça a été vital.
Merci beaucoup Françoise Morvan, André Markovitch, de nous avoir ouvert un peu comme ça votre maison de papier et de mots. Je rappelle que votre traduction du Maître et Marguerite de Mikhaïl Bulgakov est parue aux éditions Inculte. Parmi les romans que le marché a le bon goût de remettre sous nos yeux ou dans nos oreilles, se trouve L'extension du domaine de la lutte, de Michel Houellebecq, dont on oublie trop souvent, au gré des scandales et débats houleux qu'il suscite, qu'il fut un auteur passionnant, ethnologue urbain de la fin du XXe siècle, décrivant les passions froides et les mœurs attristées d'une partie de ses contemporains. Cette extension du domaine de la lutte, son premier roman, publié aux éditions Maurice Nadeau en 1994 et repris aujourd'hui en livre audio chez Écoutez Lire, lu par Pierre de la Donchamp, raconte les errances d'un informaticien solitaire parti installer un programme informatique dans une entreprise de province, comme il dit. La lutte, c'est le combat contre la désespérance, combat perdu, et la bataille contre l'arbitraire du capitalisme, elle aussi perdue. Mais l'espace du roman, c'est surtout, pour nous, l'occasion, comme dans tous les vrais livres, d'une réflexion sur la littérature elle-même, entre écriture et lecture.
L'eau vous paraît de plus en plus froide, et surtout de plus en plus amère. Vous n'êtes plus tout jeune. Vous allez mourir maintenant. Ce n'est rien. Je suis là. Je ne vous laisserai pas tomber. Continuez votre lecture. Souvenez-vous, encore une fois, de votre entrée dans le domaine de la lutte. Les pages qui vont suivre constituent un roman. J'entends une succession d'anecdotes dont je suis le héros. Ce choix autobiographique n'en est pas réellement un. De toute façon, je n'ai pas d'autre issue. Si je n'écris pas ce que j'ai vu, je souffrirai autant, et peut-être un peu plus. Un peu seulement, j'y insiste. L'écriture ne soulage guère. Elle retrace, elle délimite. Elle introduit un soupçon de cohérence, l'idée d'un réalisme. On patauge toujours dans un brouillard sanglant, mais il y a quelques repères. Le chaos n'est plus qu'à quelques mètres. Faible succès, en vérité. Quel contraste avec le pouvoir absolu, miraculeux, de la lecture. Une vie entière à lire aurait comblé mes vœux. Je le savais déjà à 7 ans. La texture du monde est douloureuse, inadéquate. Elle ne me paraît pas modifiable. Vraiment, je crois qu'une vie entière à lire m'aurait mieux convenu. Une telle vie ne m'a pas été donnée.
France Culture, la salle des machines, Mathias Sénard.
Antonio Muñoz Molina, bienvenue. Merci d'être avec nous depuis Madrid. Et merci à l'interprète Paloma Gulmo qui traduira vos propos. Est-ce que pour vous, comme pour Michel Houellebecq, le monde de la lecture s'apparente au monde parfait de la consolation?
Sí, absolument. Y más todavía en una época como esta, ¿no?
Oui, tout à fait, et d'autant plus dans une époque comme celle que nous traversons à l'heure actuelle.
Durante el encierro, durante los meses
pendant tous ces mois où nous avons Madrid, été confinés, notamment moi à Madrid,
la lecture
est celle qui m'a permis de me maintenir en vie. J'étais enfermé et je lisais, je voyageais autour du monde avec mes lectures, notamment avec un livre sur la chute de la Troisième République. Et je lisais également le journal d'un correspondant américain des années 30 qui a vécu le quotidien, la montée du nazisme à Berlin de 33 à 40. Alors bien évidemment, ça m'a donné une plénitude tous les jours. J'ai aussi le journal de Thomas Merton. Alors, c'est un moine, hein, vous savez, c'est un moine qui parle de la solitude, de la routine, au sein de son couvent où il est enfermé. Et cette même routine que moi j'avais au quotidien dans ma vie, pendant cette période de confinement, je la voyais avec un autre regard. Bien évidemment, parce que lorsque je préparais le petit déjeuner ou mon déjeuner, dans cette solitude tout seul avec ma femme, chez nous, grâce à Thomas Merton, je me rendais compte à quel point il y a cette beauté, des petites choses du quotidien.
Un promeneur solitaire dans la foule est tout sauf un livre enfermé, bien au contraire. Antonio Muñoz Molina, vous êtes espagnol, vous avez grandi en Andalousie, à Úbeda, dans la province de Jaén, de Jaén en français, on dit, je ne sais pas, avant de vivre à Grenade, puis à Madrid. Vous avez passé quelques années à New York, vous avez dirigé l'Institut Cervantes. Dès vos premiers textes, vous êtes couvert de gloire. Vous avez obtenu 2 fois le Premio Nacional de Narrativa, le Prix National de Récit, le Prix Planeta et même, en 2013, le Prix du Prince des Asturies. En France, vous avez été lauréat du Prix Femina Étranger. Vous êtes l'auteur de splendides romans comme Le Royaume des Voix, Les Mystères de Madrid, Séfarade ou plus récemment comme L'Ombre qui s'en va. On vous doit aussi des essais sur la ville de Cordoue, Cordoue des Omeyyades, par exemple, mais aussi sur la peinture ou sur la ville de New York, Fenêtre de Manhattan. Antonio Muñoz Molina, pourquoi ce vers de Quevedo, qu'il emprunte lui-même à Camoens, qui donne son titre au livre? Un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado, marcher solitaire en la foule, aimer, juste aimer qu'on vous aime. C'est un sonnet qui décrit les contradictions de l'état amoureux. Est-ce que c'est une promenade amoureuse que celle du livre?
Oui, l'important pour moi, era le verso, ce verso extraordinaire.
Ce qui était important pour moi, c'est ce vers extraordinaire. Cette promenade solitaire entre les gens. Ce vers de Quevedo, il l'emprunte à Ruiz de Escamoche. Et ce qui m'a séduit, c'est que c'est un vers tout à fait moderne, parce que se promener solitaire au milieu d'une foule, je pensais que c'était quelque chose qui avait été inventé avant tout par Baudelaire, et ce vers, on dirait du Baudelaire, mais au XVIIe siècle. C'est ce qui m'intéressait, cette sensation moderne de celui qui traverse la foule.
Oui, c'est sûr que Madrid, à l'époque de Quevedo, ça ne devait pas être la grande ville qu'on imagine aujourd'hui.
Non, pas du tout. Ce vers est complètement imaginaire, bien évidemment. Parce que Madrid, à l'époque de Quevedo, c'est un petit village, c'est tout petit. Il n'y a pas cette foule. Il n'y a pas cette possibilité de se perdre et d'être inconnu dans la foule.
C'est un fort volume de plus de 500 pages, d'un papier assez fin, qui transparente un peu sur les coups de l'encre. Le texte au fer à gauche, sans drapeau à droite, courant libre de fragment en fragment, dont les premiers mots sont toujours en gras. L'ensemble est parsemé de collages reproduits en noir et blanc et en pleine page, parfois sur des fragments d'écriture manuscrite. On tombe aussi sur quelques photographies de personnages masculins, parmi lesquels on reconnaît, au hasard des pages, Walter Benjamin, Charles Baudelaire, Herman Melville, Edgar Poe, Federico Garcia Lorca ou James Joyce. Les plats sont blancs, encadré de ce liseré vert bleuté qui signale immédiatement la collection de littérature étrangère des éditions du Seuil, au-dessus de l'estampille desquelles se lit le nom de la traductrice, Isabelle Gugnon. Le livre est recouvert d'une jaquette glacée ornée d'un collage, cette fois-ci en couleur, rouge, jaune, avec des fragments de bleu. À droite, on reconnaît le visage, surtout le nez et les lunettes de Fernando Pessoa, avec au-dessus, à gauche, en blanc, le nom de l'auteur, Antonio Muñoz Molina. Et en dessous, entièrement en capital, le titre, Un promeneur solitaire dans la foule. Antonio Muñoz Molina, il s'agit d'un recueil de fragments où chaque paragraphe débute par une phrase qui semble avoir attiré l'œil du promeneur dans la ville. Une publicité, une affiche dans le métro.
J'avais envie de partager avec le lecteur cette sensation qu'a un promeneur lorsqu'il déambule dans les rues. Et pourquoi ? Parce que ce livre n'est pas né comme un livre, mais comme une obsession, comme une manie même. Je me promenais dans les rues et je regardais un peu tout ce qu'il y avait autour de moi et je regardais les publicités. Les différentes affiches, j'écoutais les conversations des différents passants. Et en même temps, je me souvenais de cette vieille tradition de ces passants dans les rues. C'est pourquoi dans ce livre, il y a en fait une généalogie de différents promeneurs dans ces villes. Il y a Thomas de Quincy, il y a Poe, Baudelaire qui avait lui-même traduit à de Quincy et Poe.
Walter Benjamin qui traduit Baudelaire.
Walter Benjamin qui lui a traduit Baudelaire. Et puis Fernando Pessoa qui lui a déambulé au sein de Lisbonne et a été aussi un grand flâneur. Je voulais vraiment célébrer cette richesse que l'on retrouve dans le présent de ce qu'on a en face des yeux.
Oui, ben on vous suit avec grand plaisir dans toutes ces promenades et ces villes hein, que vous parcourez comme un flâneur, mais aussi comme un voyeur. On écoute des conversations, on observe des personnages, un couple d'amoureux assez étrange à l'aéroport de Madrid. On traverse New York dans une très longue promenade et tout ça forme un gigantesque collage, un peu comme les collages en noir et blanc qui parsèment les chapitres du livre.
Alors les collages, c'est moi. Ce livre a comme vraiment point de départ le collage qui est l'art du XXe siècle. Je pense aux collages qui sont très splendides de Picasso, les collages littéraires, par exemple, produits James Joyce,
Walter Benjamin,
ou même Walter Benjamin, dans son livre, il utilise des chansons, des vers, il reprend des noms de magasins. Je crois que la vie moderne telle qu'on la connaît s'exprime parfaitement en poésie. En fait, la façon poétique de l'exprimer, c'est à travers le collage. Utiliser en fait tout ce qui est réutilisable, tout est dérivé en fait. Je me souviens d'une phrase de Baudelaire
qui dit « Je pétris de la boue, j'en ai fait de l'or. »
Voilà, reprendre ce qui a été jeté, ce qui ne sert plus, et en faire quelque chose d'autre.
Mais est-ce que ce livre part d'un projet où c'était des carnets qui se sont accumulés autour de vous depuis des années et que vous avez assemblés dans un grand collage pour fabriquer le livre?
Non,
ce qui est génial, c'est que ce n'était pas du tout un projet.
Comme
vous le dites très bien, c'était des carnets, bien évidemment, mais ils ne se sont pas remplis au cours des années, mais au cours des mois. Je sortais et j'écrivais et je prenais des notes et je recopiais, je découpais, je collais et je me posais la question suivante, que fais-je ?
Parce qu'en
plus, je me souvenais d'autres livres, des livres que j'aime particulièrement, qui sont des livres qui sont inachevés, qui sont des livres qui souvent ont été construits après, posthume, après la mort de l'auteur, par exemple.
Le Sprint de Paris a sido, es un recueil qui s'est publié.
C'est donc un recueil qui a été publié posthume, après son décès, à Baudelaire. Il est repris, il y a une reprise des articles qui avaient été publiés à l'époque. Ou un autre livre que j'aime beaucoup.
La pesanteur et la grâce de Simone Veil, qui sont también.
Qui, de même, sont des notes qui sont reprises de ces carnets. Alors, ma femme me disait, mais qu'est-ce que tu fais ? Et je lui disais, ah ben j'écris un livre inachevé.
Mais alors, comment mettons un point final à un livre inachevé ?
Ça, c'est le problème.
Ah ben c'est le problème.
Il y a un moment
dans le journal de Virginia Woolf où elle dit comment garder cette liberté d'avoir un brouillon lorsque le livre est fini. Comment garder cette ouverture en fait? C'est un vrai défi. Moi je ne sais pas en tout cas, je n'ai pas la réponse. J'ai essayé hein, du moins.
Mais justement, les fragments d'écriture que l'on voit ainsi au crayon sur les faux titres, enfin les premières pages du livre, je suppose que c'est votre écriture, que ce sont ces carnets qui donnent un peu leur présence à l'ouvrage.
C'est tout à fait ça. Je souhaitais que le livre, il est très important que la maison d'édition, Seuil notamment, ait gardé en ces différents exemples, ces documents. Il était important que tout le processus créatif physique se retrouve en fait dans le livre. Il y avait aussi cette volonté que le travail sur le papier, le travail manuel, le crayon, le stylo-plume dépasse cette idée du numérique en fait, que le travail physique soit présent dans l'œuvre.
Vous savez, Antonio Muñoz Molina, que c'est justement ce travail qui nous intéresse ici dans cette émission, La Salle des Machines. Et donc, on est très heureux de voir un livre justement qui se déploie lui-même autour de ce travail. Et je voulais vous demander comment les collages se sont rajoutés. Est-ce que vous avez découpé des morceaux de publicité que vous avez aperçus dans les rues ou dans des magazines au fur et à mesure de l'écriture du livre, ou c'est une fois que...
Non, tout
va en même temps. Tout est apparu à la fois.
Ah,
c'était quelque chose de très excitant.
Infantil,
non? Je dirais même qu'il y avait quelque chose d'enfantin.
Era divertido.
C'était amusant. de grappiller des choses dans n'importe quel magazine, par exemple chez le coiffeur, que ce soit un magazine de mode ou que ce soit simplement la publicité ou une publicité de n'importe quoi. Je pouvais tout utiliser.
Il y a des moments épiphaniques, presque magiques, dans ce livre, avec des phrases justement qui surgissent. Comme par exemple, vous avez un moment, vous racontez que vous allez vous faire une analyse de sang. Enfin, c'est au quotidien, et vous dites la couleur du sang est toujours une surprise. Et ça, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire.
Oui, c'est vrai. Et la question est en poder hacer.
Et c'est la question est de pouvoir
de quelque chose.
Écrire sur tout.
Quando
Baudelaire, partir de tout, lorsque Baudelaire ou Quincy rédigent pour des journaux, ça n'a aucune valeur littéraire. On écarte, ça n'a pas d'importance. Je me souviens avoir vu à Paris une exposition qui s'appelait
L'œil de Baudelaire, qui était dans le musée de.
Qui avait été organisé au musée de la vie romantique, peut-être.
Oui, en ce musée.
Exactement, ce musée-là. Et on y voyait les journaux où avaient été reproduits donc les textes rédigés par Baudelaire. Alors, lorsque toi tu regardes ces textes et tu les retrouves dans un livre, par exemple, que ce soit une collection folio ou une autre type de collection, d'édition, ça lui apporte un statut littéraire. Mais si vous le lire dans les journaux de l'époque, entouré de publicités, d'informations politiques. Alors, tu t'aperçois que ce n'est pas du tout de la littérature, que c'est quelque chose de beaucoup plus instantané.
Et pour vous aujourd'hui, Antonio Muñoz Molina, est-ce que vous pouvez de nouveau vous promener sans écrire, vous promener sans voir, flâner, sans transformer en littérature le monde que vous côtoyez ?
Non, non, c'est possible.
Impossible.
Mais déshabituarme comme quien toma una droga.
Un peu comme vous savez un drogué, j'ai dû me sevrer. Ne pas tout marquer, ne pas tout écrire.
Era un vicio que,
ah, c'est devenu un véritable vice.
Era difícil de,
et il m'a été très très difficile d'en sortir.
J'imagine. Vous citez Walter Benjamin à un moment. Alors, Walter Benjamin, c'est un personnage qu'on a déjà vu dans votre œuvre, notamment dans Sepharad, quelqu'un qui vous est cher. Vous avez parlé tout à l'heure de cette fameuse Einbahnstraße, son autobiographie berlinoise, cette rue à sens unique. Et vous citez cette phrase qui dit « Habiter, c'est laisser des traces ». Est-ce que finalement, ce promeneur solitaire dans la foule, c'est pas une immense trace de quelqu'un qui a habité le monde pendant plusieurs années ?
C'est
laisser ses traces
saber que las huellas desaparecen.
Et se dire que ces traces aussi, elles vont disparaître. C'est une autre obsession qu'on retrouve dans ce livre, et c'est l'archéologie même.
L'archéologie del presente.
L'archéologie du présent.
Ahora mismo, ¿no? Es decir, que
prendre l'instant présent, c'est-à-dire qu'on perd tout de suite, tout ce qui nous entoure disparaît. Et je me sentais comme un archéologue,
mais
un archéologue de l'instant présent, de l'immédiat. Et chez Walter Benjamin, il y a un autre élément qui est très important. Lorsque l'on pense à un flâneur, à un promeneur, on a une vision très abstraite de quelqu'un qui se promène par plaisir. Mais ce n'est pas le cas. Parce que Walter Benjamin, en fait, il fuyait dans ses promenades. Il fuyait du nazisme, de la misère.
Baudelaire
et de Quincy aussi, ils fuyaient, ils cherchaient du travail, ils cherchaient des maisons d'édition où publier leurs articles. Là, ce n'est pas un flâneur, un promeneur qui est paisible. C'est un fugitif dans de nombreux cas.
Quand vous parlez d'archéologie, est-ce que vous croyez que vous seriez capable de faire la même chose à la campagne, c'est-à-dire de vous promener en notant, en écoutant, en pensant, la même chose, mais sans la présence des humains, uniquement au milieu de la nature ?
pero sería una cosa completamente distinta.
Ah, ça n'aurait rien à voir.
Porque la escritura de la ciudad es
l'écriture de la ville, humana. C'est l'écriture même de la présence de l'être humain.
Todo está lleno de novelas.
Il y a plein de récits.
Ça
peut être une histoire d'amour, ça peut être un crime, ça peut être un vol.
El campo es mucho más contemplativo.
À la campagne, c'est beaucoup plus contemplatif.
Et on a l'impression que pour vous, la matière de la ville, c'est un peu comme une glaise, que votre écriture est un peu à la de la sculpture, hein, dans une matière très féconde, plus que une description proprement littéraire.
Je
suis tout à fait d'accord. C'est l'idée même du matériau. Pour moi, c'est très triste d'écrire. C'est parce que je travaille seul.
Non, que trabajas solo con palabras.
Je travaille seul avec des mots.
Et las palabras son muy abstractas, ¿no?
Et les mots, au final, c'est quand même très abstrait.
Por eso me gusta
c'est pourquoi j'aime le papier, j'aime les ciseaux, la peinture, la sculpture, comme tu l'as très bien dit. Et cela permet de toucher, d'avoir un élément tactile et de réaliser un véritable travail.
On a l'impression qu'il y a des villes qui vous permettent cela plus que d'autres. Par exemple, bon, je suppose que, bon, bien sûr, Madrid, mais aussi New York. Et donc, vous avez vécu à New York quelques années quand vous étiez directeur du Centre Cervantes. Et il y a, donc, dans la deuxième partie du livre, cette magnifique promenade new-yorkaise qui nous emmène presque dans l'essence même de la ville. On a l'impression que New York, pour vous, c'est la ville par excellence.
Bueno, es una de ellas, ¿eh?
C'est l'une d'entre elles.
Yo viví en Nueva York mucho tiempo como
j'ai longtemps vécu à New York.
Claro, la Nueva York es
et
la
bien
ciudad,
sûr, pero, New York,
pero para mí,
c'est la ville.
Hay una continuidad. Digamos que hay que el mundo
il existe une continuité. Comment vous dire? Le monde que j'aime, c'est un monde qui se compose de villes comme Paris, Madrid, New York, Lisbonne. Peu importe, toutes ces grandes villes dans lesquelles moi je peux me promener, flâner. Je ne passe pas d'une ville à une autre, mais j'ai l'impression que je change de quartier, toujours dans cette même grande ville. Lorsque j'étais à New York, je pensais donc à Walter Benjamin, qui n'a jamais vécu lui à New York, mais qui souhaitait et qui avait cette idée d'aller vivre à New York.
Et
s'il ne s'était pas suicidé, s'il n'était pas décédé près de la frontière espagnole, il serait parti à New York. Il avait même le ticket, il avait le billet. Il avait le plan de la ville. Et lors de ces dernières années qu'il a passées à Paris, il avait avec lui ce plan de la ville de New York.
Antonio Muñoz Molina, vous-même, est-ce que vous vous promenez à Madrid avec le plan d'une autre ville dans la poche?
Parfois, oui. Ou avec le souvenir, hein, pas seulement le plan, mais aussi avec cette envie d'y retourner.
Et quelle ville alors, en ce moment, est-ce que vous avez dans votre cartable?
Mon rêve, maintenant c'est très compliqué, comme cela fait plusieurs mois que je ne sors pas de Madrid. J'ai un désir vraiment très fort de n'importe quelle ville. Je veux être à Paris, je veux être à Lisbonne, à Prague. Ah non, là je suis envahi de nostalgie et simplement de nostalgie.
Bon, eh bien au moins aujourd'hui votre voix sera parvenue jusqu'à Paris. Merci beaucoup Antonio Muñoz Molina, un promeneur solitaire dans la foule et paru aux éditions du Seuil. Gracias y hasta pronto. On se souvient qu'autrefois, dans les paquebots et les cargos, de magnifiques transmetteurs d'ordre en cuivre faisaient résonner les instructions de la passerelle jusqu'aux entrailles du navire. Comme chaque semaine en fin d'émission, un message parvient jusqu'à notre salle des machines pour partager une expérience d'écriture. Aujourd'hui, c'est Dany Héricourt, autrice de La Cuillère, aux éditions Liana Lévy, qui va clore cette émission. Thank you.
Hello? Hello? Allô? Bon, j'espérais te parler en direct. Tant pis. J'ai reçu ton message. Comment en est-on arrivé là, tu me demandes? Tu fais allusion à la survie de l'espèce ou à moi, toi, nous? En tout cas, ça m'a fait penser à Bruce Chatwin et à ses livres de voyage. What am I doing here? C'est un peu comme How did we get here? Au fait, j'ai écrit un roman, La cuillère. Il y est question de cuillère, forcément, de voyage aussi, d'océan, de falaise, de forêt et de vigne. Je voulais écrire une histoire sur la mort, l'amour et la résilience. Mais finalement, c'est assez drôle. Je crois. Mais bon, tu sais que j'ai un sens de l'humour décalé. Alors, pour répondre à ta question, 1, c'est déjà bien d'être arrivé quelque part. 2, sommes-nous vraiment arrivés? 3, à pied, c'est certain, en Volvo aussi, en se perdant, en rêvant, en écoutant du punk et du Bach, en traversant des lignes de démarcation, en acceptant d'être enivré, dérouté, embrassé, consolé. Au fait, j'ai lu une étude formidable. Voyager stimulerait l'habilité du cerveau à faire des sauts entre différentes idées. Voyager nous rendrait donc plus créatifs. Donc, mince, ça passe plus. Tu viens me chercher à la gare? Bye! Allô? Hello? Allô? Je suis arrivée, voie 16. T'es pas là? Bon, never mind.
La salle des machines, une émission de Mathias Sénard assistée de Céline Leclerc, réalisation Agnès Catou, avec à la technique aujourd'hui Pierre Monteil. On se retrouve dimanche prochain à 17h. Avant cela, profitez des auteurs et des livres de la salle des machines sur franceculture.fr.